voici Compte Complet Extra avec Alain Huzeau et Marc Griffin.
Bienvenue à Compte Complet Extra. Ici Marc Griffin. Alain n'est pas avec nous pour cet bel entretien avec Jean-François Ménard. Qui est Jean-François Ménard et pourquoi on invite Jean-François Ménard? Jean-François est un préparateur mental reconnu. Écoute, Jean-François, avant de te saluer, je vais te dire que tu as présenté plus de 1000 conférences et ateliers, et j'en ai vu quelques-unes, il est exceptionnel. Préparateur mental aussi pour le Canadien, ta participation à 5 Jeux olympiques et tes clients ont remporté quelques médailles. On va en parler tout à l'heure. Auteur de 2 livres à succès, tu as été finaliste du prix Canada Top 40 Under, bon, 40 Under 40, là, pour être précis. Été membre de l'Association canadienne de psychologie du sport. Une feuille de route impressionnante. Très heureux de te recevoir, Jean-François, parce qu'on va parler d'un sujet qui, selon moi, est extrêmement important. Bienvenue à Compte Complet Extra, Jean-François.
Ben merci, Marc. Puis, si jamais tu cherches un deuxième job, éventuellement, je vais peut-être t'embaucher pour me présenter à toutes mes conférences avec la façon que tu viens de le faire. T'es bien gentil. Puis non, mais vraiment, je suis content de participer pour une raison très particulière, c'est qu'on va jumeler 2 de mes grandes passions, évidemment la préparation mentale, mais le baseball aussi. J'ai joué au baseball beaucoup quand j'étais plus jeune, baseball, softball, puis maintenant je me retrouve à coacher mon petit garçon depuis plusieurs années, puis fait que c'est un sport que j'aime bien, donc merci de l'invitation.
Ben écoute, merci, mais je pense que les gens vont fortement apprécier nos discussions, Jean-François. Je commence d'entrée de jeu puis te demander si Yogi Berra avait raison. Et Yogi avait dit ceci, vous savez que Yogi est très célèbre pour ses expressions. Il avait dit le baseball est 90% mental et l'autre moitié physique. Avait-il raison de dire ça?
Ben, une chose que j'ai compris, c'est que Yogi Berra n'était pas très bon en mathématiques, là, premièrement. deuxièmement, moi j'aime pas ça chiffrer. Tu sais, à quelle importance à la préparation mentale dans le monde du sport? Parce que pour moi, c'est pas une question de pourcentage. C'est plus une question de... Ça fait partie du sport, puis il faut respecter le fait qu'il faut s'intéresser à ça. Je dis pas que tout le monde devrait travailler avec un préparateur mental, mais tout le monde devrait s'intéresser au côté psychologique de la performance, parce que ça fait partie, pas qu'on parle du baseball, qu'on parle d'autres sports. Surtout dans des moments où est-ce qu'il y a des attentes. Tu sais, je donne toujours l'exemple de quand on est dans un contexte de pratique, d'entraînement versus dans un contexte de match. Mais c'est quoi la grande différence entre les deux? C'est les enjeux. Mais aussitôt qu'il y a des enjeux qui sont différents, qui ne sont pas pareils, ben la portion psychologique devient d'autant plus importante. Moi, j'ai toujours dit, Marc, on a souvent parlé, moi puis toi, par le passé, que peu importe le sport, pour moi, pour être un athlète complet, c'est un peu comme une table de cuisine là, avec 4 pattes. Okay? Tu as toujours 4 composantes que tu dois absolument travailler. Fait qu'il y a la première patte que je vais appeler la patte technique. Fait que, au baseball, l'aspect technique, on peut parler de bien lancer, de bien frapper, le jeu de pied. Bon, il y a plusieurs aspects techniques. Puis ça, on le pratique beaucoup. Cette patte-là est longue puis elle est robuste, là, elle est forte. La deuxième patte, pour moi, c'est la patte tactique ou stratégique. Fait que comment jouer la game. Fait que les jeux qu'on veut faire, le synchronisme collectif, l'approche qu'on va avoir contre un frappeur comme lanceur. Puis ça, on le pratique beaucoup aussi. L'aspect tactique, la patte est longue puis elle est forte. Là, il y a l'aspect physique. T'sais, d'être puissant, d'être rapide, d'être flexible. Le travail qu'on fait en gymnase. La nutrition qui vient là-dedans aussi. Mais ça, on le travaille beaucoup aussi. Mais pour vraiment être un athlète complet, il y a une quatrième patte qui est la patte psychologique qui... encore en 2025, selon moi, n'est pas entraîné assez comparativement aux autres, puis qu'on le voit dans des situations critiques. Tu sais, tu penses dans les séries au baseball, les champions mondiaux, les séries mondiales, on le voit ceux qui se démarquent. Puis c'est pas toujours les meilleurs joueurs d'un point de vue talent, mais c'est ceux qui sont capables justement de reconnaître le fait que les attentes vont être différentes, il va y avoir un petit peu plus d'anxiété à gérer. Il va falloir que je me concentre peut-être un petit peu plus. Il va falloir peut-être que je bâtis ma confiance un petit peu plus parce que la situation n'est pas comme d'habitude. C'est pas tous les athlètes qui comprennent ça. Puis c'est pas tous les athlètes qui priorisent ça. Alors, pour moi, c'est pas une question de c'est-tu 90%, c'est-tu 100%, c'est-tu 50%. C'est que pour moi, c'est une des 4 pattes. Puis quand tu as quatre pattes qui sont solides et longues et pareilles, d'un point de vue, tu sais, à quel point on les respecte, on les entraîne, mais la table est stable. Mais si tu as une patte qui est un peu plus courte que les autres, ben, j'ai pas besoin de te dire que la table va être chambranlante un peu, puis on le voit, les athlètes. T'sais, je sais que tu penses à des joueurs en ce moment, quand je t'explique ça, là, que point de vue technique, tactique, physique, c'est des athlètes exceptionnels. Mais quand ça vient le temps de performer au moment opportun, ils sont pas toujours là. Puis pour moi, c'est vraiment psychologique, c'est vraiment émotionnel, cette situation-là.
Écoute, c'est fort intéressant ce que tu dis. Puis là, je vais te mettre un petit peu dans ma question qui me vient à toi, puis ça fait évidemment bien du sens, là, la fameuse table, mais comment on peut aider quelqu'un, que ce soit un athlète professionnel ou même un jeune qui s'en va dans les gymnases très bientôt pour les camps d'entraînement, par exemple au baseball, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer, outre d'aller voir un préparateur mental, c'est super comme tu le mentionnais, mais c'est pas tout le monde qui peut ou peu importe. Comment un jeune peut se préparer? Parce que là, on sait que c'est important, on sait qu'il fait partie de la patte, puis on doit être équilibré vis-à-vis les autres aspects, mais comment on peut au moins se doter de quelques outils à ce niveau-là?
Ouais, c'est une excellente question. Peu importe le sport, Marc, il y a toujours une saison morte. Okay? Il y a une saison où est-ce qu'on a plus de temps à faire des choses qu'on n'aurait vraiment pas le temps de faire en saison. Parce que le rythme, surtout quand on parle des athlètes professionnels, mais même les athlètes, t'sais, de haut niveau ici au Québec, une fois que la saison commence, t'sais, des entraînements quasiment tous les jours, puis des matchs, puis ça va vite. Okay? Mais pendant la saison morte, on a plus de temps. Fait que pour moi, c'est toujours un bloc que j'appelle d'éducation, qu'on peut vraiment profiter parce qu'une fois que la saison commence, peut-être qu'on a moins le temps à faire certaines choses. Fait que par exemple, pour moi, il y a plein de livres qu'on peut lire en préparation mentale qui existent. Puis si on pourrait même peut-être ajouter à ce podcast-ci la liste là, de façon écrite, je peux vous donner des suggestions.
Absolument.
Il y a tellement de bons livres qui existent. Puis pour moi, la lecture demeure une forme d'éducation qui est extraordinaire. Est-ce que l'athlète va le faire pendant la saison? Peut-être qu'il y a moins le temps, mais pendant la saison morte, il n'y a pas d'excuse. T'sais, pour moi, c'est un moment qu'on peut le faire. Un deuxième exemple, pratiquer comme la respiration consciente, par exemple, de pratiquer à pouvoir se calmer sur demande. Ben, tu sais, la respiration, Marc, là, c'est une habileté qu'on doit entraîner. De la même façon qu'on entraîne notre élan au baseball, qu'on entraîne notre lancer, la respiration consciente de pouvoir bien respirer dans un moment particulier, dans un moment spécifique, pour pouvoir se calmer, ben, tu peux pas juste t'attendre que ça va arriver comme ça, là. Tu peux pas t'attendre que pendant le 10e match de l'année, tu es sur le monticule, puis que là, il y a un moment critique, que là, ah, ben, je vais me concentrer sur ma respiration, puis ça va m'aider. Ben non, c'est comme dire, je vais juste me concentrer sur ma technique de bâton dans un moment important dans un match. Ben non, il y a une raison que tu pratiques ton élan beaucoup en préparation de la saison pour que ça arrive un peu plus de façon automatisée pendant la saison. Mais la respiration consciente, on sait très bien qu'on va utiliser la respiration pour se calmer dans la boîte des frappeurs ou sur le monticule ou si on joue à Réco puis qu'il y a un jeu important qui s'en vient. Mais est-ce qu'on pratique la respiration consciente à tous les jours pendant la saison morte pour s'assurer qu'on sait comment bien inspirer, bien expirer? Pour que le cerveau comprenne justement qu'on doit enclencher un mécanisme de relaxation, qu'on peut s'entraîner à ralentir les ondes, la décharge électrique dans notre cerveau sur demande comme ça. Est-ce qu'on fait ça? Moi, je sais très bien qu'il y en a très peu qui le font. Mais si tu fais ça tous les jours pendant la saison morte, ben tu peux penser que ça va être plus facile de le faire pendant que tu joues des matchs, par exemple en saison. On parlait de visualisation un petit peu en préparation du podcast. La même affaire. Quand je demande souvent aux athlètes à quel moment que tu visualises, ils vont me dire, ben, avant un match important ou avant une présence importante au bâton. Ben oui, mais t'es trop tard. Si tu penses que la visualisation va être bien faite dans des moments où tu es extrêmement anxieux ou tu as peur d'échouer, ben, bonne chance, là. Les chances que tu le fasses comme il faut sont très minces. Mais de le faire, d'apprendre à le faire comme il faut dans la saison morte, on peut visualiser beaucoup, même si on n'est pas dans la saison, là. Puis quand on parle de visualisation, il y a plein d'affaires qu'on peut bien faire. Donc, par exemple, souvent, quand les athlètes visualisent, qu'est-ce qu'ils vont visualiser, Marc, par rapport à une situation de jeu? Est-ce qu'on visualise un petit jeu simple ou on visualise la flèche qu'on frappe par-dessus la clôture, puis que les buts sont remplis? Ben moi, je challenge les athlètes dans tous les sports. C'est que si tu visualises seulement quelque chose qui va arriver de façon rare, qui arrive une fois aux 15, 20, 30 matchs, mais c'est quoi l'utilité de visualiser quelque chose qui va arriver de façon, qui arrivera peut-être même pas pendant l'année. Mais est-ce que tu visualises, par exemple, rester calme dans la boîte des frappeurs? Là, tu vas me dire, ben oui, mais tu marques pas des points. Ben oui, tu peux visualiser ton état psychologique et émotionnel dans la boîte des frappeurs. Est-ce que tu visualises être un compte complet puis de faire un bon élan, de mettre le bâton sur la balle, mettre la balle en jeu parce que c'est ça ta job? Est-ce que tu visualises ça? Est-ce que tu visualises être dans l'avant-champ puis d'être très conscient de ce qui se passe puis de communiquer avec ton deuxième but, par exemple, par rapport au jeu qui s'en vient? Est-ce que tu visualises ça? Puis la plupart du temps, la réponse est non. Puis moi, j'étais un grand, grand croyant, je le vois parce que c'est mon travail. Mais de visualiser les choses que c'est pratiquement 100% sûr que tu vas devoir vivre à tous les matchs va faire que ta visualisation est tellement plus efficace parce que tu visualises des choses qui vont non seulement arriver, mais que c'est souvent dans ces moments-là que tu peux changer l'allure d'un match ou tu peux t'assurer de bien performer au moment opportun. Je pourrais en parler pendant des heures, les choses qu'on pourrait faire pendant la saison morte, mais...
C'est le fun, Jean-François, parce que moi, je faisais ça, en fait, je le faisais pas aussi bien que tu... J'aurais aimé ça te connaître lorsque j'étais un athlète, mais moi, je faisais ça, et lorsque j'arrivais, je le faisais pas nécessairement hors saison, donc c'est peut-être le premier constat d'échec que j'avais, mais ce que je faisais, c'est avant chaque match, évidemment, surtout, parce que bon, au baseball professionnel, tu voyages... tu joues des séries de trois, donc tu arrives dans une nouvelle ville, tu as trois matchs, et ainsi de suite. Fait qu'avant chaque match, j'allais m'asseoir, peut-être dans les estrades, ça dépendait, mais là, j'essayais de me voir, effectivement, faire un beau catch au champ centre, par exemple, ou me voir frapper une balle, un double sur telle pancarte qui m'avait que j'avais ciblé là, en entrant dans le stade, juste pour me mettre dans un état d'esprit gagnant, tu sais, dans le positif, dans l'état d'esprit. Bon, on a dit, j'ai l'impression que je vais connaître du succès ici, mais je suis jamais rentré précisément dans ce que tu mentionnes, et puis ça fait bien du sens, là. Tu parles, puis je me voyais entrer dans le rectangle des frappeurs. J'aurais aimé effectivement me visualiser avec une respiration ou à faire avec un calme, tu sais, un calme qui me permet justement d'être encore meilleur physiquement. Donc, mais ça me rassure parce que, tu sais, c'était une de mes questions. Me dire, est-ce que c'est... Parce que je sais que, bon, en anglais, manifeste ou manifester, des choses de même, c'est très, très à la mode actuellement. Mais alors, pour ça, je me demandais, est-ce que visualiser est encore parmi les bonnes choses d'un athlète de pointe ou tout athlète, quoi?
Ben oui. Puis, tu sais, en fait, l'exemple que tu viens de donner, que tu t'assoyais dans les estrades puis tu t'imaginais frapper, tu sais, une pancarte avec une flèche ou un beau catch... Juste m'assurer que ceux qui nous écoutent en ce moment comprennent que c'est aussi pratique de visualiser ça. C'est important de le faire parce que ça peut te donner de la confiance, ça peut te générer de l'enthousiasme. Mais il faut juste pas oublier de visualiser toutes les petites affaires qu'on sait qui vont se passer puis qu'il faut être prête. Fait que pour moi, c'est comme un partage des deux. Puis c'est pas juste quelque chose qu'on fait en saison morte, mais c'est évidemment des choses qu'on fait pendant la saison aussi. Je vais partager une autre forme de visualisation qu'on oublie, qui est extrêmement pratique. La visualisation, je dirais que la plupart des gens vont l'utiliser en forme de préparation pour le match qui s'en vient. Okay? Fait qu'on va s'imaginer faire un certain jeu à l'avenir, tu sais, ce soir dans le match, ou peut-être on se retrouve à le lanceur à quelques minutes avant de prendre le monticule. T'es dans l'abri, puis que tu t'imagines monter au monticule, puis déjà, tu sais, lancer les... Tes quatre premiers lancers sont effectués de façon très efficace et très précise. Fait que c'est une forme de préparation. Mais la visualisation, on peut l'utiliser aussi pour d'autres raisons. Fait que par exemple, on peut l'utiliser pour bâtir sa confiance en soi. Fait que je te donne un exemple. Supposons que, t'es troisième frappeur, les choses vont très bien, mais là, t'affrontes un gaucher. Ça fait un petit bout que t'affrontes un gaucher. Puis que les 3-4 derniers matchs que tu as affronté un gaucher, ça a été plus difficile. T'as une couple de matchs que tu as été 0-4 ou t'as mis le bâton sur la balle, mais c'était pas convaincant. Mais la visualisation que tu peux faire, c'est tu dis OK, je vais affronter un lanceur gaucher ce soir. C'est quand la dernière fois que j'ai affronté un lanceur gaucher, puis ça a bien été. Parce que souvent, quand on voit une menace devant nous, notre mémoire est très court terme. On va penser de les derniers quelques matchs qu'on a, mais ça n'a pas bien été contre les gauchers, là, les 3-4 derniers matchs. Mais la dernière fois que ça a bien été contre un gaucher, puis ça se peut que ça soit, ça fait peut-être, je ne sais pas moi, 4 mois passés. Mais de visualiser ce match-là, parce que notre cerveau se souvient des détails, Marc, des bons moments positifs, là. Et on, surtout ceux qui sortent du lot, là, qui sortent de l'ordinaire, on s'en souvient et on s'en souvient longtemps. Mais d'imaginer ce match-là, à quel endroit que c'était, c'était qui le lanceur, c'était-tu pendant la journée, c'était-tu pendant la soirée, tous les petits détails associés à ça, puis d'imaginer, de revoir, de repasser dans ta tête tous les détails associés à ça qui fait que tu vas vivre les mêmes sensations, les mêmes émotions de fierté, de satisfaction, de joie, au moment même qui sont associés à 4 mois passés, mais tu vis là, juste avant ton match de ce soir-là. Fait que là, tout d'un coup, en vivant ça, mais là, tu penses à ton match du soir qui s'en vient, puis tu vois ça avec un autre paire de lunettes. Tu vois pas ça de la même façon. Puis tu viens juste de bâtir la confiance par rapport à un lanceur gaucher qui s'en vient. Fait que ce que je viens d'expliquer, c'est de la visualisation. Mais c'est par rapport à un moment du passé, pas par rapport à l'avenir.
Ouais.
Puis parfois, ça dépend des situations, mais des fois, je vais décourager les athlètes de trop visualiser l'avenir. Parce qu'il y a une chose par rapport à l'avenir qui est complètement différente que le passé, c'est que c'est incertain. On ne peut pas prédire exactement ce qui va arriver. Puis parfois, trop visualiser l'avenir peut te jouer des tours parce que t'es pas assez concentré à ce que le lanceur te donne dans le moment même, son approche, son état. Puis des fois, quand on visualise trop ce qui s'en vient, on se prépare par rapport à quelque chose qui est pas nécessairement ce que la réalité nous donne comme information. Fait que la visualisation pour bâtir sa confiance, moi j'utilise ça avec tous les athlètes avec qui je travaille, toute la gang. Parce que tout le monde est capable de réimaginer un moment de succès du passé. Puis de revivre ces sensations-là, ces émotions-là positives, qui fait que quand tu te retournes à 180 degrés et tu regardes l'avenir, tu vois pas l'avenir pareil.
Hey, tu me donnes le goût de jouer puis me préparer comme ça, Jean-François, c'est fou. Ça m'amène au point où, bon, on sait qu'au baseball, un frappeur, il va échouer 7 fois sur 10 puis il va être bon. T'sais, si un jeune frappe 300 toute sa carrière, il va probablement se rendre très, très loin. Donc, est-ce que... on sait que c'est pas facile parce que les jeunes athlètes, ça fait d'autres sports. Puis il y a pas d'autres sports où tu échoues 7 fois sur 10 puis tu fais partie de l'élite. Comment on peut, outre avec visualisation ou la confiance, comment au baseball, parce que moi le conseil qu'on me disait, c'est écoute, faut que tu aies une mémoire très courte. Comment dit, t'es, je suis peut-être 0 en 10, c'est pas grave, tu comprends, faut que j'apprenne. Donc, avoir une mémoire très courte, c'est puissant au baseball à ce niveau-là. Mm. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Mais comment un jeune ou même un athlète peut traverser une saison complète en se disant « je vais échouer 7 fois sur 10 et même plus » Est-ce que c'est la façon dont on se le dit? Est-ce qu'on devrait se concentrer sur « au contraire, j'ai frappé 3 balles sur 10 » Comment tu vois ça de jongler avec cet aspect-là du baseball?
Ouais. Ben écoute, moi à la base j'ai une philosophie qui a toujours du positif dans le négatif. Puis souvent surtout les petits garçons là, que je coach avec l'équipe de mon fils depuis les dernières années, des fois ils me trouvent tannant par rapport à ça, là, mais c'est tellement vrai. Je veux dire, on est tellement bon à trouver le petit négatif dans une situation positive, si on est très bon, là. Mais de l'autre côté, il y a toujours du positif dans le négatif. Fait que ça, c'est une première prémisse de base que une situation peut toujours nous enseigner de quoi. Mais je vais aller plus loin que ça. Moi, je suis en désaccord avec ce constat-là. Je sais que le baseball, vous utilisez souvent ça, tu sais, t'échoues 7 fois sur 10. Je suis complètement en désaccord. Parce que c'est purement une statistique. 3 coups sûrs sur 10. Mais tu peux avoir 8 présences au bâton extraordinaires et avoir 2 coups sûrs sur 10.
Oui.
Tu sais, tu peux frapper 4-5 flèches sur le nez, là, puis il y a eu des beaux catchs ou tu sais, t'étais malchanceux, t'as frappé directement dans le mythe, ou t'as affronté un lanceur, le meilleur lanceur de la ligue, puis t'as un retrait au bâton, mais il a lancé 9 lancés, là. Et c'est tout un succès. Je veux dire, pour moi, je challenge toujours les gens dans le monde du baseball par rapport à ça, parce que pour moi, ça dépend de comment tu justifies échec et réussite. Puis t'as raison, puis écoute, si on veut jouer le jeu... Moi qui travaille dans le monde du hockey, les meilleurs francs-tireurs de la Ligue nationale de hockey et un pourcentage d'à peu près 7, 8, 10 % là. Fait qu'ils vont marquer une fois sur 10 tirs. Fait que tu sais, c'est-tu 9 échecs sur 10? Ben, peut-être pas. Je veux dire, le gardien a peut-être fait un bon arrêt, le défenseur a bloqué un tir. Puis tu me suis, là. Donc, pour moi, c'est toujours une question de définir c'est quoi du succès, c'est quoi un échec. Puis de la même façon que ça se peut très bien que tu es 5 en 10, mais que 3 de tes 5 coups sûrs, tu étais chanceux, là. Parce que t'as allongé les bras, c'était pas l'élan que tu voulais faire, t'as accroché à la balle, puis passé par-dessus le troisième but. Je veux dire. Donc, à la base, moi, je fais bien attention par rapport à ça. D'ailleurs, je viens juste de faire un entretien avec un athlète olympique qui, juste ce week-end, a eu une performance qui il a fini cinquième, il n'a pas fini premier. C'est un athlète qui gagne assez régulièrement. Mais notre entretien d'une heure était axé sur toutes les bonnes affaires qu'il a faites, puis les leçons qu'il a apprises. Je sais très bien que cet athlète-là a des très bonnes chances qu'il va rebondir très rapidement la semaine prochaine grâce à ces expériences-là. Donc, pour moi, c'est beaucoup une question de perception. Pour revenir vraiment à ta question, là, c'est vraiment une question de perception, puis de bien comprendre la réalité de ce qui se passe, puis d'avoir une mémoire à court terme. Moi, je pense que des fois, quand on est dans une impasse négative, puis ça se peut très bien qu'on ait deux, trois, quatre présences, que on n'a pas été très bon. Pour moi, c'est qu'est-ce qu'on apprend de ça, puis de s'assurer que quand on se présente dans la boîte la prochaine fois, qu'on est 100% décroché du dernier jeu. Puis ça, j'utilise la métaphore du velcro, là. Des fois, je vais taquiner les athlètes en disant, clairement, tu étais un velcro, là, tu n'as pas su être décroché du jeu d'avant par rapport à où est-ce que tu es en ce moment. Mais les grands athlètes, puis c'est pour ça que j'aime les sports comme le golf, le tennis, où est-ce que il y a tellement de moments en peu de temps que tu dois décrocher puis te reconcentrer. Le baseball, c'est un exemple. Le hockey, c'est un exemple aussi, où est-ce que tu peux avoir 20-25 présences dans un match. D'avoir des petites techniques justement pour, t'sais, pas nécessairement oublier ce qui est arrivé, parce que tu peux pas te forcer à oublier quelque chose. Et on peut prendre une minute de parler de ça, là. Moi j'adore le concept, t'sais, quand les coachs vont dire oublie ce qui vient d'arriver. Penses-tu que l'athlète va vraiment oublier son strikeout qu'il vient de faire puis il a eu de l'air ridicule? T'sais, tu demandes à quelqu'un d'oublier quelque chose, en fait tu lui rappelles d'y penser. Puis la meilleure façon de ne pas penser à quelque chose, c'est de te forcer à penser à autre chose. On oublie des choses par défaut. Tu sais, quand tu oublies tes clés, Marc, à quelque part, tes clés de voiture, tu peux pas te forcer à les oublier. Tu vas les oublier parce que tu as passé attention à quelque chose d'autre qui a fait que tu as oublié tes clés. Donc, fait que c'est pour ça que tu sais, d'avoir des routines qui sont préétablies, d'avoir des petites façons de faire, justement, avec la respiration, te calmer, de comprendre ce qui est arrivé, de remettre ton focus sur ce que tu vas faire le prochain jeu. Mais ça, c'est toute une routine qui est préétablie pour justement laisser de côté ce qui n'est pas important.
J'adore le velcro. Ça, c'est quelque chose que j'ai retenu personnellement, là. Je trouve ça une métaphore ou en tout cas une image qui est très, très, très forte à ce niveau-là. Deux choses que ce que tu as mentionné. Je me souviens, moi, j'ai eu un entraîneur, Jean-François, lorsque j'étais avec l'équipe canadienne. Mais j'avais 18 ou 18 ou 19 ans, donc maturité moyenne, on va se le dire. Il m'avait dit ça à un moment donné. Ça allait pas bien, j'étais 0 en 4, tu sais, une espèce de match là, très ordinaire. Et il m'avait dit, OK, c'est sûr que dans ce match-là, il y a un élément qui est positif que tu peux retenir. Puis là, écoute, je grattais, puis j'en trouvais pas. Puis là, lui-même, dit, il m'en avait trouvé trois. Ah, t'es au champ centre, t'as atteint l'intercepteur à un moment donné, ça a empêché le gars d'avancer d'un but de plus. Ben, c'est un point positif. Mais pas grand-chose, il n'y a pas grand monde qui va voir ça quand ils vont voir un match de baseball, mais l'athlète doit quand même composer là-dessus. J'aurais aimé me concentrer davantage là-dessus parce que j'avais un caractère assez fort, mais c'est toutes des bonnes idées. Et l'autre chose que tu as mentionné qui est très, très bonne, surtout pour les jeunes, c'est effectivement la qualité des présences au bâton. Et ça, je me souviens, je donnais des conférences à des entraîneurs de baseball, puis on avait sorti une multitude de bonne présence, puis ça devrait être, entre guillemets, les statistiques d'équipe. Autrement dit, tu as parlé tantôt de statistiques. Effectivement, le marqueur, tu as donné un coup sûr, tu n'as pas donné un coup sûr, tu es 3 en 10. Mais effectivement, une présence au bâton de 9 lancés, comme tu as mentionné, ça, c'est une présence de qualité. Tu es 0 et 2, puis tu as remonté ça à 3 et 2, puis tu as réussi à tirer un but sur balle, présence de qualité. Ou même si c'est un retrait, tu es passé de 0 et 2, tu t'es battu. Donc, il y a une multitude de façons de, effectivement, puis plus on commence jeune avec ça, Jean-François, j'ai l'impression que plus on peut aider les jeunes à justement à réaliser les bons côtés de ce qu'ils font, parce que le baseball est un sport de statistiques. Tu sais, tantôt, tu as dit que c'est une statistique.
C'est clair.
Mais on est pris aussi avec notre sport à ce niveau-là.
Tout à fait. Puis, tu sais, moi, j'étais un grand croyant de ce que j'appelle célébrer les petites victoires. Tu sais, juste pour mettre des termes sur ce que tu viens de dire, Marc. Parce qu'il y a toujours des petites victoires, même dans les matchs les plus difficiles. Ils sont faciles de trouver les petites victoires dans les matchs que ça va bien. Mais moi, j'ai toujours dit que ceux qui sont très forts et fortes mentalement, c'est ceux qui sont capables d'avoir la bonne attitude et de reconnaître les bonnes petites choses dans des moments que t'es pas supposé. Ça, c'est être fort mentalement. Mais d'avoir une bonne attitude et d'être de bonne humeur quand les choses vont bien, tout le monde est capable de faire ça, là. Puis d'ailleurs, il y a rien qui nous permet de rebondir, puis ça, c'est prouvé de façon scientifique. Ce qui nous permet de rebondir le plus rapidement puis d'être résilient dans des situations difficiles, c'est justement d'avoir une approche, pas nécessairement juste positive, mais une approche avec des pensées constructives ou des pensées associées à ce qu'on veut, pas ce qu'on veut éviter. D'avoir un discours où est-ce qu'on s'appuie dans la démarche, pas qu'on se flagelle puis qu'on est super critique et négatif avec soi-même. Puis éventuellement, comme tu vas t'en sortir, c'est pas une question de si tu vas t'en sortir, c'est une question de juste de temps. Puis ce que j'adore dans le baseball, puis je suis certain que tu vas penser à des noms des athlètes de la ligue majeure qui se démarquent de ce côté-là. Tu peux être 0 en 3, puis de 3 retraits au bâton. T'es pas dans la game pantoute. Mais t'arrives en 8e manche ou en 9e manche, ta 4e présence, puis t'as encore une chance d'avoir un impact sur le match. Parce que la nature du baseball, c'est que c'est terminé après 9 manches. Il n'y a pas de cadran, il n'y a pas de... Fait que c'est jamais fini. Puis moi, je mets un gros focus là-dessus, puis surtout avec les jeunes, quand je coach mon garçon, qui commence le match un peu plus difficile. Puis c'est la même chose en défensive, ou tu sais, comme pitcher, où t'as toujours une façon de te reprendre avant que le match termine. Puis ça, là, on l'oublie rapidement. Puis tu sais, puis on le voit dans d'autres sports aussi, on commence de façon lente. Tu sais, souvent on va dire, oh, je le sens pas aujourd'hui, ou tu sais, ça va être difficile aujourd'hui. Pourquoi ça va être difficile? Tu as juste joué 2 manches. Il en reste encore 7. Mais c'est une question de perspective. Fait que c'est sûr que si tu dis que ça va être difficile, mais ben là, les probabilités que ça va aller bien vont diminuer. Là. C'est automatique. Mais tu dis, regarde, il me reste encore 7 manches. J'ai encore quelques présences au bâton. En défensive, je vais faire des beaux jeux. C'est pas facile d'avoir cette mentalité-là, mais c'est pas impossible. Puis de plus en plus que tu construis ça, c'est une question de probabilité. Les choses vont se replacer un peu plus. Puis je n'ai jamais oublié, je vais juste finir avant que j'oublie sur ce point-là. L'être humain, c'est un être social. Puis au baseball, malgré le fait que quand tu es sur le terrain, tu es très loin de tes coéquipiers et coéquipières, dans l'abri, c'est très tissé, c'est très serré. Puis on est influencé par l'état émotionnel des gens autour de nous. Puis quand quelqu'un est trop dans sa tête, est trop négatif, une des premières choses que je vais leur dire, puis souvent les athlètes n'aiment pas ça quand je vais leur dire ça, mais c'est très important, si je vais dire arrêtez d'être égoïste. Vous pensez pas à l'équipe en ce moment. Vous pensez à vous-même, là. C'est juste vous que ça va mal, puis que c'est la fin du monde, puis c'est un jeu d'équipe. Puis malgré le fait que t'es 0 et 2, puis t'as fait 2 erreurs dans le champ, tu fais encore partie de l'équipe. Puis si tes coéquipiers et tes coéquipières te voient quand même être debout, puis encourager l'équipe, puis de quand même garder un certain moral, il va dire « Wow! Comme quel exemple! Quel coéquipier, coéquipière! » Puis ça, c'est des petits aspects. On parlait de visualisation tout à l'heure. Là. Moi, je vais souvent demander à des athlètes de visualiser des moments difficiles. Je veux que tu visualises le moment après que tu te fais retirer au bâton. Je veux pas que tu visualises te faire retirer au bâton. Je veux que tu visualises le moment là, que tu dois sortir de la boîte des frappeurs, là, puis là, tu veux vouloir mettre ta tête basse puis marcher là. Je veux que tu visualises ce moment-là, puis je veux que tu visualises la façon que tu veux marcher, ce que tu veux dégager. Parce qu'encore, puis souvent je vais poser la question à l'athlète, tu vas-tu avoir un retrait au bâton au moins une fois pendant la prochaine saison? La réponse est oui. Parfait. Tu vas-tu avoir un retrait au bâton dans le prochain mois? Les chances sont très bonnes. OK, parfait. Tu vas-tu avoir un retrait au bâton dans la prochaine semaine? Ça se peut très bien. OK. Donc ça veut dire qu'il faut être prête à ce moment-là, parce que tu viens de me dire que c'est 100% sûr que ça va arriver. Puis plus souvent qu'autrement, lorsqu'on réagit de façon extrêmement négative, pour moi, à titre de préparateur mental, ça représente un manque de préparation pour ce moment-là. C'est que tu t'attendais pas que ça arrive, fait que tu n'étais pas prête. Mais le match n'est pas terminé. Fait que faire des liens entre ces petites victoires, visualisation, pour moi, c'est, j'essaie toujours de mettre ça ensemble. C'est des choses, je trouve, qui sont sous-estimées, qu'à la fin, peuvent faire une énorme
Écoute,
différence.
je veux dire, en tout cas, je suis convaincu que les gens qui nous écoutent, qui ont fait moindrement du sport, vont rejoindre tellement ce que tu dis en plus. Puis j'espère que les jeunes qui n'ont pas atteint ça encore vont le réaliser. C'est tellement drôle, tu m'as fait penser, Jean-François. Je vous raconte une petite anecdote vite de même, là, mais j'étais dans la Ligue de la Californie. Et effectivement, tu parlais de 0 en 4, puis deux erreurs. Puis tu sais, le mauvais match, là. Et en fait, je suis déjà 0 en 4. J'étais le premier frappeur du rôle offensif. Donc, j'avais cette cinquième présence-là. J'avais l'espoir, comme tu as mentionné, de peut-être, bon, faire la différence malgré ça. Et je me souviens, j'avais une situation où il y avait un coureur au moins au troisième. Là, je me souviens plus s'il y avait des coureurs ailleurs, mais au moins au troisième, moins de deux retraits. Donc, tu sais, une balle frappée quelque part allait produire probablement un point. Puis j'ai frappé une chandelle, premier lancé, une chandelle que le receveur a saisie. Je me souviens pas trop, je savais que j'étais pas content, puis je suis retourné à l'abri, puis on a perdu ce match-là. Le gérant me fait venir dans son bureau après. Et dans ce temps-là, c'est des cassettes VHS, là. Je m'excuse, c'est mon âge. Mais il m'a dit, assis-toi dans le bureau. Il se retourne, il met la cassette dans le VHS, et il dit pas un mot, là. Il fait juste partir, puis il dit, fais juste regarder de quoi t'as l'air. Et écoute, Jean-François, j'ai frappé la chandelle. Fait que déjà, une fois que j'ai réalisé que c'est une balle qui allait être saisie, mon langage corporel était affreux. Lancer le bâton, lancer le casque, tu sais, babouiner, là, d'une façon extrême. Puis effectivement, on a perdu le match après. Mais il n'a jamais dit un mot. Il m'a dit, observe de quoi t'as l'air. That's it. Alors, j'ai regardé. On a regardé la séquence au complet. Il a cessé de la cassette. Puis il m'a regardé. Je l'ai regardé. Je suis sorti du bureau. C'était la dernière fois à ce moment-là que j'ai. Tu parlais d'aspects négatifs dans une équipe, tu parlais surtout des joueurs qui sont considérés comme des leaders, là, dans une équipe. Ça a tellement une grande influence sur tout le reste. Donc, ton influence positive peut amener quelque chose d'extraordinaire, mais ton influence négative peut tellement traîner tout le monde vers le bas. Puis ça, ben, c'est important. Donc, ma question à toi, c'est que un coach maintenant qui vit ça, qui vit que son athlète, je ne dirais pas son meilleur athlète, mais certainement un des joueurs qui est influent dans l'équipe, draine un peu tout le monde vers le bas. Comment un coach, c'est plus pas une question facile pour toi, là, mais comment on pourrait essayer de faire en sorte que ça puisse aller un petit peu mieux puis que l'esprit d'équipe reste, quelque chose de fort, là?
Ben en fait, la vidéo ne ment pas.
Ben ouais.
Puis tu parlais, moi écoute, je vais utiliser cet exemple-là, puis je vais renchérir parce que souvent quand on filme une performance sportive, que ce soit au hockey, que ce soit au baseball, que ce soit un skieur, un athlète en athlétisme, la raison première qu'on enregistre, c'est l'aspect technique ou tactique, tu sais, qu'on puisse analyser, évaluer, ils se sont-ils bien déplacés à comme arrêt court, chanson, t'as-tu fait les bons premiers pas pour te rendre vers la balle, ta route vers la balle était-tu bonne, tu sais, ton élan, est-ce que tu étais bien positionné? Tu me suis? Fait que souvent la vidéo, c'est utilisé pour analyser la game, technique et tactique. L'exemple que tu viens de donner n'a rien à voir avec ça. Ça a tout à rapport avec ton langage corporel. C'est un moment après ton élan. Et lui, ça ne dérangeait pas ton élan, là. Il n'était pas parlé de ça, là. C'était ce que tu dégageais après. Donc, moi, j'adore la vidéo parce que puis cet entraîneur-là est très brillant en passant, là. Moi, je fais ça souvent avec les athlètes. C'est leur faire comprendre comment est-ce qu'ils se comportent, comment est-ce qu'ils se déplacent d'une place à l'autre. Parce que c'est pas toujours ce que tu fais en action qui est important, c'est entre les moments d'action qui est important. Comment tu te comportes sur l'abri? Fait que Moi, j'encourage des fois des entraîneurs à filmer l'abri. Puis ce qui est super intéressant, c'est que quand on se voit sur vidéo, là, quand tu t'es vu, là, et t'avais-tu honte?
C'était pas super.
Puis tu sais, il y avait. Puis c'était pas super, puis il y a pas besoin de parler, l'entraîneur. Là. Puis d'ailleurs, selon moi, c'est plus puissant si l'entraîneur ne dit pas un mot. Parce que l'athlète s'en rend compte soi-même et se fait la morale soi-même. Puis il n'y a rien de plus puissant que l'athlète lui-même ou elle-même, tu sais, de comprendre quelque chose. Puis tu ne peux pas changer quelque chose si tu n'es pas conscient ou consciente que tu dois le changer. Puis la vidéo est extraordinaire pour ça, parce que comme je l'ai dit, la vidéo ne ment pas. La vidéo, c'est telle qu'elle. C'est objectif, c'est pas subjectif, c'est objectif. Puis plus souvent qu'autrement, la vidéo va t'enseigner quelque chose, elle va pas confirmer quelque chose. Puis la raison, c'est que quand tu es au bâton, puis tu es extrêmement émotionnel, aussitôt que tu es dans un état émotionnel, surtout négatif, ton analyse devient subjective, est exagérée, est dramatisée. Ce n'est pas en réalité. Puis des fois, tu ne te souviens même pas, parce que tu es tellement émotionnel que tu ne te souviens même pas vraiment ce qui est arrivé. Là, tu regardes la vidéo et tu te dis « Hey, boy, wow! Je pensais pas que c'était si pire que ça. » Puis c'est intéressant parce qu'on parle, ça fait combien d'années, Marc, là? Est-ce que je ne veux pas te vieillir?
Non, mais, écoute, ça fait très longtemps, c'était en 1990.
Écoute, on parle de 35 ans passés et tu m'en parles comme si c'était arrivé hier. Tu m'as pas parlé de ton élan cette journée-là, là, qui lançait contre toi. Non, mais tu me suis. Fait que, tu sais, ces moments-là sont significatifs. Puis quand on parle de les quatre pattes là, d'une table, là, c'est pas technique, c'est pas tactique, c'est pas physique. C'est 100% psychologique et émotionnel, ce moment-là.
Écoute, Jean-François, j'ai une couple de questions. Bon, des questions précises, mais que plusieurs, tu sais, moi, je me la fais poser souvent ou je m'y fais poser souvent. Bon, premièrement, le jeune, la confiance du jeune. OK, le jeune, il voit la balle, il a l'impression que c'est une balle de ping-pong, alors que quand ça va bien, c'est un ballon de plage. Puis là, ça va pas bien. Comment on passe, tu sais, comment aider un jeune qui vit, là, qui voit la balle, là, il a l'impression qu'il la voit plus? Ça, c'est la première question. Puis j'enchaîne tout de suite sur la deuxième, parce que tu répondras à ta manière. Mais le jeune qui se fait, parce que puis en passant la confiance, là, que la balle de ping-pong puis le ballon de plage, c'est aussi pour les professionnels. Là. C'est pas juste les jeunes amateurs. Je l'ai vécu même dans le baseball professionnel. Mais l'autre, c'est un petit peu axé sur les jeunes. C'est un jeune qui se fait atteindre et qui a peur après ça de la balle. Y a-tu quelque chose où mentalement on peut l'aider à surmonter ce déficit-là?
OK. Fait que je vais commencer avec ta première question. Là. L'athlète qui manque de confiance puis que la balle semble comme une balle de ping-pong, une balle de golf, puis l'athlète qui est en pleine confiance puis que la balle semble comme un ballon de plage. Il y a deux choses que je vais dire par rapport à ça. La première, c'est que c'est extrêmement important de trouver des façons créatives pour mettre l'athlète dans des situations de succès rapidement quand ça se passe. OK? Donc, souvent, le danger d'un sport collectif comme le baseball, c'est que on demande à tous les frappeurs, par exemple, de passer à travers les mêmes exercices. Mais c'est pas tous les frappeurs qui ont les mêmes besoins. Tu me suis? Oui. Ils sont pas tous dans le même état psychologique. Oui. Il y en a qui sont en pleine confiance, oui. Il y en a qui sont pas en pleine confiance. Fait que moi, je le fais d'ailleurs avec les petits jeunes. Puis pour ceux qui se questionnent, mon garçon a 12 ans. Là. Fait que ça fait 5 ans que je le coach. Là. Fait que je parle des jeunes de 7-8 ans jusqu'à 12 ans. Là, OK? Puis je pense que ce que je vais dire, c'est la même chose pour des joueurs professionnels. Moi, j'en faisais une mission avec le staff d'entraîneur de personnaliser les éducatifs qu'on faisait le plus que possible en fonction de où est-ce que l'athlète se retrouvait. Donc, l'athlète qui manquait de confiance quand on faisait des pratiques avec cet athlète-là, notre approche n'était pas pareille. On le prenait peut-être un petit peu plus de côté, on faisait d'autres éducatifs avec lui ou elle, justement, pour le mettre dans des bonnes conditions, des conditions de plaisir. C'est souvent l'athlète qui manque de confiance, mais c'est synonyme pour moi, il manque de plaisir aussi. Là, il sourit pas beaucoup. Fait que, on a toutes sortes d'exercices super le fun, tu sais, les faire frapper des balles de ballon chasseur de caoutchouc, là, tu sais, comme le plus fort possible. Puis que moi, je faisais par exprès des fois pour me mettre dans un angle où je savais très bien que l'athlète allait me frapper avec la balle probablement. Là, ça, il trouvait ça drôle, tu sais, c'était le fun. Fait que pour moi, c'est le côté artistique de coacher. C'est de reconnaître, tu sais, des des petits détails, des petites situations qui fait que ce joueur-là a besoin de plus d'attention, plus d'amour pour justement le mettre dans des bonnes conditions, puis qu'éventuellement, ça l'aide énormément. Ça, c'est la première chose que je vais dire. La deuxième chose que je vais dire, c'est de faire attention à penser que l'athlète va passer de voir la balle comme une balle de ping-pong à aller à un ballon de plage. Pour moi, il y a une transition entre les deux. Okay? Puis, de penser que tu vas passer de 0 à 100 000 à l'heure, écoute, c'est rare que ça arrive. Mais souvent, dans notre approche de coaching, on veut que ça aille vite. Mais pour moi, c'est de respecter de, OK, ben faut mettre l'athlète dans un état où est-ce qu'il passe d'un ballon de ping-pong ou une balle de ping-pong à aller à une balle de tennis. Tu sais, un peu plus de confiance, puis éventuellement, mais plus, tu sais, une balle de baseball, puis à un moment donné, plus une balle de softball, puis à un moment donné, tu me suis? Oui. Fait que de vraiment respecter les étapes avant de s'attendre qu'il va arriver là. Puis pour certains athlètes, ça peut aller vite. Pour d'autres, ça va prendre un peu plus de temps. Je vais aller à ta deuxième question, puis c'est sûr que je vais y repenser parce que je me connais. Là, tu parlais de quelqu'un qui se fait atteindre, c'est oui. ça? OK. Ça, c'est tricky. Parce que, surtout pour les jeunes qui vivent ça pour des premières fois, quand tu arrives au niveau Ligue majeure, professionnelle, où tu joues au baseball depuis 5, 10, 15 ans, puis que tu es plus mature, tu es physiologiquement, tu es peut-être plus fort aussi, donc tu peux recevoir l'impact un peu plus facilement qu'un jeune de 9 ans qui mange ça sur le coude là, ou dans le dos. Pour moi, je reviens toujours à la fameuse technique qui s'appelle la désensibilisation systématique. Fait que c'est de passer de ramener le jeune dans des conditions où est-ce que on peut commencer à lancer un petit peu à l'intérieur. Fait qu'encore, pour moi, ça c'est un exemple d'un jeune qui a un besoin particulier, on le met à l'écart, puis qu'on prend un coach qui a beaucoup de contrôle avec son lancer, puis qu'on lance des balles inside, mais tu sais, pas de façon très serrée, là, mais tu sais, on y va de façon systématique. Fait que le concept le dit, là, c'est une désensibilisation systématique. Fait qu'on veut désensibiliser la situation qui fait peur ou la situation qui a créé un traumatisme. Puis à un moment donné, mais tu vois des balles passer de plus proche en plus proche en plus proche, puis tu crées une espèce de confiance supplémentaire avec le temps avec ça. Habituellement, ça vient aider. C'est une question de temps, malheureusement, aussi. Ouais. Puis nous, on l'a vécu là, avec quelques joueurs dans l'équipe de mon garçon. Il y en a un qui s'est fait, écoute, il a mangé 3-4 plombs dans le dos, là. Dans à peu près, je pense, l'étendue de 2-3 semaines. Fait que ça, c'était pas facile. Mais souvent aussi, ce qui arrive avec les jeunes, c'est qu'ils savent pas très bien gérer leur système limbique. Le système limbique dans le cerveau, c'est la partie du cerveau qui assure la survie humaine, finalement. Puis tout ce qui est une menace, une petite menace ou une grosse menace, fait que, tu sais, si t'es dans la boîte des frappeurs, puis tu vois une balle qui s'en vient puis qui va te frapper, ben, le système limbique, ce qu'il fait, c'est qu'il veut se protéger. Fait que c'est quoi le réflexe du jeune qui est pas habitué? Qu'est-ce qu'il va faire, Marc? C'est qu'il va se tourner, puis qu'est-ce qu'il fait face à la balle? C'est le dos. Fait que, tu sais, c'est aussi enseigner aux joueurs que quand tu vois une balle venir, ben, il y a une tactique à ça, là. Faut que tu recules, faut pas que tu te tournes. Fait que pour moi, il y a un enseignement à faire aussi au niveau des jeunes. Puis encore, la vidéo est très forte. De démontrer, des fois, ceux qui se font frapper, c'est souvent des frappeurs qui sont mal placés dans la boîte, surtout à un jeune âge. Fait que, mais si le joueur ne le sait pas, s'il ne s'en rend pas compte, qu'il est très proche du marbre, puis qu'il a tendance à tourner dans la balle, mais il ne changera pas le comportement. Fait que nous, c'est ce qu'on a fait avec certains de nos joueurs, c'est qu'on a filmé, puis on leur a montré, regarde, la balle, elle passe proche, parce que toi, tu es proche de la balle. C'est pas nécessairement une balle qui est proche de toi. Fait que pour moi, il y a de l'enseignement à faire de ce côté-là aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Écoute, pose-moi une autre question.
Oui, ben oui, non, il n'y a pas de problème. En fait, il m'en reste une couple de questions. Là, c'est surtout, là, je parle...
Ah oui, je me souviens.
Comme ça.
Tu sais, on parlait, là, qu'est-ce qu'on fait avec un joueur qui voit la balle comme une balle de ping-pong? Mais c'est intéressant parce que tu ne m'as pas demandé qu'est-ce qu'on fait avec un joueur qui voit la balle comme un ballon de plage. Puis quand ça va bien, on se pose pas de questions.
Exact.
Puis ça, c'est un des plus grands problèmes. Je te dirais pas juste dans le monde sport, dans la société en général, c'est quand les choses roulent, on y touche pas, on n'en parle pas, t'sais, on veut pas jinxer, on veut pas que ça arrête. Pour moi, c'est du non-sens.
Ouais.
Pour moi, comme préparateur mental, ça n'a pas de sens qu'on s'apprête puis qu'on s'intéresse énormément à quand les choses vont mal, puis on fait des meetings, puis on en parle pour régler ça, quand les choses vont bien, on ne voudrait pas que ça se répète. On ne voudrait pas que ça continue. On ne serait pas intéressé à ce que on passe une séquence avec la séquence, une autre séquence avec la séquence qu'on a, puis qu'on s'améliore en plus, que ça passe d'un ballon de plage à une montgolfière. Tu me
Ah,
suis?
c'est totalement. Écoute, t'as tellement raison. Puis, tu sais, on focus effectivement toujours sur l'échec. Puis, tu sais, c'est comme, tu sais, regarde, t'es une personnalité publique aussi, là. Tu vas avoir 100 commentaires de dire, écoute, c'est extraordinaire ce que tu fais, Jean-François, tes conférences. Puis là, tu vas avoir une personne qui va dire, ouais, mais moi, je l'ai trouvé bien ordinaire. Fait qu'on va focusser sur quoi, là? Et on va quoi?
Moi, j'appelle ça la technique Mikal Kingsbury. Bon, là, je sors les gens du monde du baseball, puis vous connaissez probablement le nom de notre fameux Olympien, puis Mikal, c'est peut-être l'athlète le plus dominant depuis les 10-15 dernières années, non seulement au Canada, mais au niveau mondial, dans
Absolument.
tout sport individuel confondu,
Ouais.
là. Puis, est-ce que c'est parce qu'il est talentueux? C'est sûr que ça l'aide. Est-ce qu'il y a une shape physique pour son sport? C'est clair. Est-ce qu'il y a des coachs extraordinaires? Aussi. Mais il y a une chose que Mikal fait, puis que j'ai jamais vu ça chez d'autres athlètes. Quand il gagne, là, puis moi, mon approche avec lui, elle est très particulière. Quand il gagne, disons, ce week-end, il y a deux courses en Chine, là, puis il gagne sa première. Puis là, moi, je le texte par WhatsApp, j'envoie un petit message. Je le félicite jamais, pour commencer. Je ne vais jamais dire bravo pour ta victoire, médaille d'or, je suis tellement fier de toi. La première chose qu'on fait, c'est qu'on parle de son expérience. Que ce soit négatif, que ce soit positif, on parle de son expérience. Parle-moi comment tu t'es préparé. Parle-moi de la communication que tu as avec ton entraîneur. Parle-moi de comment tu as fait pour gérer le changement de température. Parle-moi comment tu as fait pour gérer le fait que le gars juste avant toi, il a eu sa performance de l'année, puis tu as dû rester calme, puis te concentrer sur ton game plan. Puis à un moment donné, une fois qu'on a fait le tour de tous les détails qu'il a fait, qu'il a gagné, puis qu'on finit toujours, écoute, ça fait 14 ans qu'on travaille ensemble, Marc.
Incroyable.
Puis que encore après 14 ans, on trouve des petites affaires après chaque performance qu'on n'a jamais discutée puis qu'on n'a jamais identifiée auparavant. Mais on creuse, on creuse, on creuse. Mais la raison qu'il gagne souvent le lendemain, c'est pas parce qu'il a fini premier la journée d'avant. C'est parce que c'est tellement clair ce qu'il doit faire encore le lendemain qui a permis de gagner, ben il fait juste augmenter les probabilités que ça arrive encore. Donc, je reviens à mon commentaire de c'est rare qu'on me pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec un athlète quand ça va bien? Puis selon moi, c'est d'autant plus important que si ça va bien, ça va mal, d'avoir des discussions pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que la situation nous enseigne, pour poursuivre notre séquence positive ou de tranquillement sortir de notre léthargie.
Écoute, puis bravo en passant, je sais qu'effectivement, ça fait quoi, après 14 ans, tu mentionnes, là, je savais que ça faisait longtemps, mais quel travail, après, une équipe extraordinaire qui m'amène à la prochaine question, c'est que, puis là, je parle du coach, là, tu sais, on me dit qu'un coach qui aime son sport, c'est super, mais un coach qui aime son ou ses athlètes, c'est encore mieux. Tu comprends ce que je veux dire? Autrement dit, on parlait de leader tantôt. Est-ce qu'un coach qui donne carrément là, à son sport, c'est bien, mais que ce sont ses athlètes qui sont sa priorité? Est-ce que c'est un peu ça qu'on devrait de cette manière-là qu'on devrait penser?
Je sais où tu t'en vas avec ta question. De plus en plus, quand je dis de plus en plus, si on compare, tu sais, les années 80, 90, 2000, où est-ce qu'on est rendu en 2025, les athlètes veulent avoir des entraîneurs qui ont leur bien à cœur, tu sais, qui ressentent leur présence, qui s'intéressent à eux individuellement, même si c'est un sport collectif. Je compare avec les années 80-90 parce que c'était très différent à l'époque. Tu en avais des entraîneurs comme ça aussi, mais tu avais des entraîneurs qui étaient extrêmement durs. Puis tu sais, c'était beaucoup de cas d'harcèlement. Puis que tu sais, tu as passé dans ces années-là, Marc. Là, fait que tu as sûrement plusieurs histoires. Mais fait que oui, je pense que c'est extrêmement important. Mais il y a une chose que je vais apporter comme nuance. C'est vraiment minime. C'est une façon de parler. Mais je trouve que ça a quand même un grand impact. J'aime pas ça quand les entraîneurs vont dire mes athlètes ou mon équipe. Ça fait très possessif. Puis je préfère quand un coach va dire plutôt les athlètes que j'entraîne ou les athlètes qui font partie de l'équipe. L'équipe que je coach ou que je m'occupe. C'est vraiment minime, mais il y a l'aspect possessif que je trouve qui est un peu dangereux des fois. Puis je sais que c'est une façon de parler, mais il y a des athlètes qui le remarquent, ça. Puis il y a des athlètes qui veulent pas être son athlète au coach. L'athlète veut juste faire partie du sport puis de l'équipe. Puis le coach, c'est une personne qui est en charge de l'équipe. Puis je trouve que quand on comprend cette nuance-là, on est capable aussi de se détacher un petit peu, puis qu'on prend pas les choses trop au sérieux, puis que, tu sais, trop à cœur, puis... parce que c'est pas facile être coach, tu sais, des fois, tu sais, on arrive à pas dormir le soir à cause de certaines décisions qu'on a prises, puis, tu sais, c'est vraiment pas évident, mais faut savoir comment être vraiment présent, présente quand on est dans l'action, puis savoir aussi comment décrocher, puis avoir des moments quand on n'est pas dans l'action pour penser à autre chose, puis quand on est très possessif par rapport à ce qu'on fait. Je sais, les gens vont dire c'est une façon de parler de GF. T'sais,
Oh oui, ah
on
oui.
veut pas vraiment dire, t'sais, j'appartiens à l'athlète, mais moi, j'ai souvent eu des athlètes qui me l'ont dit. Puis qui vont reconnaître des coachs qui n'ont pas justement une allure possessive. Puis qui admirent ça, qui respectent ça.
J'aime ça. J'aime ça.
Ouais.
En tout cas, ce qui est le fun, en tout cas, si je reviens au baseball rapidement, dites-vous que les Freddie Freeman, puis les Mookie Betts, puis c'est ce que j'aime du baseball moderne, Jean-François, c'est que ils ont tous maintenant des préparateurs mentaux. Je pense qu'on a compris là, au fil des années, ça n'existait pas dans mon temps, évidemment, mais on a compris que les quatre pattes, c'est important, puis qu'il en manquait toujours une patte à un moment donné, puis c'était souvent celle-là qui manquait. Fait que, tu sais, votre joueur préféré, là, les gens qui suivent le baseball, là, ben dites-vous que c'est ces gens-là. Puis les organisations ont compris aussi, là. On est vraiment rendu avec des gens qui sont compétents. Puis ça, je trouve ça le fun. Je termine avec une question d'Alain. Alain n'est pas avec nous aujourd'hui, mais il tenait à poser une question, Jean-François. Puis toi qui travailles pour le Canadien, puis on vient de parler de Michael Kingsbury, puis donc d'autres sports, mais il dit comment gérer la spécificité des différents sports? Autrement dit, la différence des approches, par exemple, entre un joueur de hockey ou un joueur de baseball, ou même un lanceur puis un frappeur.
Ben, écoute, moi, c'est ma réalité, en fait, parce que je travaille avec. Tu sais, dans ma carrière, j'ai travaillé au-delà de 10, 17 ou 18 différents sports olympiques. Je travaille dans le hockey professionnel, je travaille dans le football professionnel, j'ai travaillé dans le monde du baseball aussi. Je travaille des joueurs de poker, des chirurgiens, toutes sortes de monde qui vivent la grande pression puis qui doivent livrer la marchandise sur demande. Ce que je me suis aperçu, c'est que lorsqu'on n'est pas un expert dans le sport comme tel, de jamais prétendre qu'on est expert. Fait que moi, la première chose que je vais dire quand je travaille avec quelqu'un, c'est que soit je connais bien ton sport, ou je le connais un petit peu, ou je le connais pas pantoute, je vais dire dès le début. Mais je vais poser plusieurs questions pour m'assurer de bien comprendre tes besoins et s'assurer de comprendre la culture, de comprendre le langage. Fait que tu sais, j'ai compris que dans le monde du snowboard, quand tu dis que tu as stampé un saut, mais ça veut dire que tu l'as bien atterri. Mais tu sais, je ne savais pas ça quand j'ai commencé à travailler dans ce sport-là, mais je l'ai appris. De la même façon que le hockey a sa culture, le baseball a sa culture, tu sais, la gymnastique a sa culture. Fait que c'est très, très important de pas arriver avec tes gros sabots puis dire, ben moi, parce que je suis un expert en préparation mentale, je suis un expert dans ton sport. Ça, je mets ça très au clair dès le début. Puis c'est incroyable le respect que tu gagnes des athlètes et des coachs quand tu mets ça au clair dès le début. Puis j'en suis un qui pose beaucoup de questions. Fait que j'en suis un qui s'adapte rapidement parce que je fais ça comme ça. Fait que ça, c'est la première chose que je vais dire. La deuxième chose que je vais dire, puis je m'en rends compte parce que je travaille avec plusieurs différents sports, c'est le transfert de connaissances d'un sport à l'autre est extraordinaire. Puis on se rend compte de plus en plus que des grandes organisations dans le baseball ou dans le hockey ou une des raisons qui deviennent de plus en plus dominantes, c'est parce qu'ils s'intéressent à collaborer avec d'autres sports. Ils s'intéressent à jaser avec des coachs de sports de combat pour apprendre, c'est comment est-ce qu'on fait pour gérer des moments de chaos, des moments très, très difficiles. Ou ils vont collaborer avec des coachs de football, parce que pour moi, le football, c'est probablement le sport collectif qui existe au niveau tactique, puis tout ça. Comme, comment tu fais pour t'assurer que tous tes joueurs comprennent très bien les systèmes de jeu? Mais tu peux apprendre ça des coachs de football. De collaborer avec un chef d'orchestre en musique pour savoir comment tu fais pour amener tout le monde à la même page, dans un moment spécifique. Y a-t-il quelqu'un de mieux qu'un chef d'orchestre pour expliquer ça? Puis je trouve que les équipes et les sports qui vivent encore dans les années 90, pour moi, c'est synonyme des gens qui ne s'intéressent pas aux autres cultures. Puis moi, je m'amuse avec ça parce que les choses que j'enseigne à Michael Kingsbury, qui vient du travail que j'ai fait avec Laurent Duvernay-Tardif, ou les choses que j'enseigne à Laurent Duvernay-Tardif, qui vient de quelque chose que j'ai travaillé avec un clown au Cirque du Soleil, ou ce que j'apporte à un clown au Cirque du Soleil que j'ai apporté à un chirurgien dans une salle d'opération. Parce que quand on parle de concentration, puis confiance, puis rebondir d'échec, puis utiliser la visualisation, peu importe le sport ou le domaine de performance, c'est très semblable dans la façon que tu vas l'appliquer puis, et les bénéfices. Puis c'est intéressant parce que ça fait quand même, ça fait 18 ans là, que je pratique ce métier-là. Puis par le fait même, il y a eu des athlètes que j'ai coachés dans différents sports qui sont devenus des amis. Parce qu'ils s'intéressaient à leur sport, puis l'autre s'intéressait à son sport. Puis fait que c'est comme créer une petite communauté des athlètes que JF a travaillé avec au fil des ans, qui s'appuient dans leur démarche, puis qui comprennent que hey, je peux apprendre de lui, puis je peux apprendre de elle. Puis, fait que ce serait ma réponse à cette question-là. Wow. Puis, si je peux me permettre de terminer, Marc, à quelque chose que je voulais dire tout à l'heure, par rapport à quelque chose que tu as mentionné qui est très important. Que tu disais que les meilleurs joueurs de baseball travaillent avec des préparateurs mentaux. Puis je te le confirme, la réponse est oui, parce que moi, j'ai plein de collègues qui travaillent pour les équipes du baseball majeur. Et d'ailleurs, bravo à votre sport, parce que dans les sports professionnels, si on compare au soccer, puis on compare au football, au hockey, au basket, vous êtes de loin en avance au niveau de la préparation mentale. Tu sais, les organisations, il y en a qui n'ont 5-6 à temps plein, là. Ça, c'est remarquable. Oui. C'est remarquable. Fait que ça, je vous le donne, vous êtes en avance, je dirais, 15-20 ans, comparativement à d'autres sports. Ce que je veux ajouter, c'est que encore en 2025, il y a un tabou par rapport à la préparation mentale, qu'on va juste travailler avec un préparateur mental si on est faible mentalement. Puis moi, ça me fait toujours sourire quand j'entends ça, parce que pour moi, le travail avec un préparateur mental, c'est un signe de force psychologique. Parce que encore à ce jour, les gens ne vont pas l'encourager tant que ça. Fait que de choisir de travailler avec un préparateur mental, c'est pas une faiblesse. Pour moi, c'est une intelligence. C'est d'être en avant des autres. C'est de comprendre que cette patte-là est très, très importante à ta table. Peut-être pas en début de saison, quand il n'y a pas beaucoup d'attentes, pas beaucoup de pression, mais quand tu arrives dans des matchs importants ou en série, Yogi Berra avait raison. Cette patte-là est beaucoup plus importante que ta technique ou à quel point que tu peux lever des poids dans le gymnase. Comme ça a plus rapport en fin de saison, ces aspects-là. Ou beaucoup moins qu'en début de saison. Puis moi, je travaille pas avec des gens qui sont faibles mentalement. Je travaille avec des gens qui veulent devenir plus forts mentalement. Fait que de la même façon qu'un athlète travaillerait avec un préparateur physique, parce qu'il veut devenir plus puissant, plus flexible, plus endurant, et moi, je fais la même chose avec les cerveaux. Puis mes collègues en préparation mentale, pour la plupart, c'est leur approche aussi. Fait que c'est pas une question d'être faible mentalement, c'est une question de reconnaître que ça fait partie de ton sport, puis ça va te donner un énorme avantage de travailler ces composantes-là. Puis c'est des choses extrêmement simples. Comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, c'est pas de la grande science, Marc, là. C'est des petites affaires que, des fois, on ne sait pas qu'on peut faire ça. Mais c'est comme la préparation physique, c'est comme entraîner des aspects techniques. C'est un petit peu souvent qu'il faut le faire, régulièrement. Puis ça fait juste partie de ta pratique.
En tout cas, moi, je suis déjà vendu. Puis, tu sais, Jean-François, je pourrais t'écouter parler pendant des heures. Chaque fois qu'on se rencontre, moi, lors de nos rencontres, je suis toujours fasciné. Puis à chaque fois, j'ai une petite nostalgie en me disant, j'aurais aimé ça avoir un gars comme toi parce que j'avais l'impression que je vivais ma carrière seule. Je vivais, tu sais, autant mes échecs. Puis seul, pas parce que je partageais pas ça avec du monde, mais tu sais, quand ça va pas bien, là, en tout cas, je me comprends dans mes propos, là, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que ça aurait fait du bien à ce niveau-là. En terminant, Jean-François, j'aimerais ça qu'on parle de toi un petit peu. On a parlé beaucoup de sport, mais je sais que tu fais aussi beaucoup de choses avec des gens en affaires. Tu as parlé de médecin tantôt. Tu as écrit des livres. J'aimerais ça qu'on parle de tes deux livres aussi. Des livres à succès, d'ailleurs. Parle-nous un peu de ce que tu fais, outre, tu sais, encore une fois, on a parlé de sport, mais Préparateur mental, c'est pas juste axé sur le sport.
Non, tout à fait. Donc, moi, je pratique mon métier, Marc, de trois différentes façons. La première, c'est que je fais du coaching. Fait que j'ai un certain nombre de clients que je fais du coaching individuel, autant des athlètes professionnels, olympiques, que des gens de tous les jours. Fait que des hommes et des femmes d'affaires. J'ai coaché des banquiers, des gens qui travaillent au gouvernement, des artistes de télé. Fait que ça, je m'amuse beaucoup là-dedans. La deuxième chose que je fais, c'est que je suis conférencier professionnel. Fait que non seulement dans le monde du sport, mais beaucoup dans le monde des affaires. Pour des banques, des compagnies pharmaceutiques, des compagnies d'assurance, parce que c'est très compétitif. On pense que le sport, c'est compétitif, là, mais écoute, ces grosses business-là, je veux dire, ça roule, puis il y a beaucoup d'enjeux. Puis surtout, les gens performent à tous les jours. Ça n'arrête jamais. Donc, fait que je m'amuse beaucoup à faire le transfert du monde du sport à le monde de tous les jours. Puis c'est des choses qu'on peut appliquer partout. Puis, troisième façon que je pratique mon métier, c'est à titre d'auteur de livres. Fait que j'ai deux livres, un qui s'appelle L'Olympien au bureau, qui est toute la préparation mentale dans le monde du sport, transposée dans le monde de tous les jours. Et le deuxième livre qui a été écrit avec André Lachance, que tu connais très bien, qui s'appelle Chimie d'équipe, qui est plus un livre sur le coaching, le leadership, comment bâtir une culture positive dans ton équipe, comment mieux collaborer, comment mieux communiquer avec les gens dans ton groupe. Alors, fait que voilà, fait que c'est un peu ce que je fais. Puis pour ceux qui s'intéressent aussi, là, je suis quand même assez branché sur les réseaux sociaux, surtout LinkedIn et Instagram. Puis si les gens veulent plus d'informations, ils peuvent aller sur mon site web qui s'appelle jeanfrançoisménard.ca.
En tout cas, Jean-François, encore une fois, je le mentionne, là, mais moi, je suis toujours fasciné par ces discussions-là, dont de nous amener ça de façon simple, puis de faire comprendre que, tu sais, on a tous les outils, puis c'est, dans le fond, on les a tous les outils, les athlètes les ont, les outils, les entraîneurs, c'est juste de se faire rappeler, de se faire ramener dans le droit chemin. J'ai adoré ton exemple de Velcro, soit dit en passant. Je trouve ça fantastique. L'image, je la trouvais forte. C'est le fun, tu sais, il y a des choses qui nous accrochent encore plus à ce niveau-là. Merci de ton temps. Je sais que bon, tu as mentionné tout ce que tu fais. Tu es extrêmement occupé, extrêmement en demande. On apprécie beaucoup, compte complet, du temps que tu nous as consacré. On va évidemment souhaiter que les gens de notre entourage baseball, autant amateur que professionnel, vont prendre ces trucs-là en considération. Merci beaucoup, Jean-François Ménard.
Ben, fait plaisir, Marc. Bonne journée.
Alors, c'est tout pour Compte Complet Extra. On vous remercie d'avoir été des nôtres et puis continuez de nous suivre. Allez sur notre site internet www.comptecomplet.com pour en savoir davantage. À bientôt, tout le monde.